On est de retour sur Choc FM en ce samedi 27 avril 2024, en cette deuxième partie. Après la première partie, on avait parlé essentiellement de soccer dans les championnats européens et puis on a parlé aussi de MLS, le championnat nord-américain. On a parlé aussi, on a dit un mot sur la draft, donc le repêchage en NFL avec un petit portrait sur le controversé Caleb Williams. On va maintenant parler des ligues nord-américaines, comme on le fait chaque semaine sur Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi sur la radio 100% Toronto, 100% francophone. Je rappelle que je dédie cette émission à un ami d'enfance qui est décédé il y a quelques heures avant que j'enregistre l'émission. Il s'appelle Joël Arnold Mambundu. On le surnommait copain et puis il est décédé comme ça subitement. Allez. Repose en paix, frangin. Ok, allez, comment on le fait depuis plusieurs mois, on dit un mot, compte à rebours pour les Jeux de Paris 2024 qui auront lieu du 26 juillet 2024 au 11 août 2024. 10 000 athlètes dans les rues de Paris. Les Jeux n'auront pas seulement lieu à Paris, il faut le savoir. Il y aura quelques compétitions, je pense à Marseille. Il y aura des compétitions même à Tahiti. Ça, c'est pour les compétitions de surf, c'est normal. Parce que pour faire du surf à Paris, ben, il faudra repasser là, peut-être sur PlayStation ou Xbox. Mais non, oui. Quelques compétitions auront lieu à Marseille. Je pense que c'est les compétitions de voile. Je ne suis pas sûr à 100%. J'aurai l'occasion de vérifier. Toujours est-il que dans le compte à rebours, les Jeux, à partir du moment où on enregistre cette émission, auront lieu dans exactement 91 jours. Les Jeux auront lieu pendant 3 semaines, comme je le dis, chaque semaine, 10 500 athlètes avec à parité, là, donc hommes et femmes, 329 événements dans 32 sports, la cérémonie d'ouverture sur les quais de la Seine, ça c'est ce qui est prévu à l'origine. Maintenant, ça se pourrait qu'il y ait des changements. Pourquoi? Parce que, et ça c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui, il y a la tension monte, ok? C'est que ce qui était prévu, c'est que les Jeux aient lieu, la cérémonie d'ouverture justement sur les quais de la Seine. D'ailleurs, ils ont parlé de certaines compétitions de natation, notamment ce qu'on appelle la nage libre dans la Seine. Pour ceux qui ont été à Paris, la Seine, c'est dégueulasse. C'est le fleuve qui traverse Paris, là. Vous savez, comme Lake Ontario à Toronto. C'est dégueulasse. On trouve tout là-dedans. Des déchets, évidemment. Des déchets, quoi. Très peu de poissons. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire là, un filtre, quelque chose. Il y aura peut-être des problèmes de contamination pour les pauvres athlètes qui vont essayer d'aller dans la Seine. Bon, allez, plus sérieusement. Il y a des problèmes, enfin des problèmes, des inquiétudes concernant la sécurité des Jeux Olympiques. J'ai entendu en début de semaine qu'il y a un jeune homme, 16 ans, qui aurait décidé comme ça de devenir un martyr à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc lui, il planifiait de porter soit une ceinture avec des explosifs, ou alors d'avoir une arme et d'aller faire un carnage pendant les Jeux Olympiques. Là, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas là? Et là, donc en fait, on a appris aussi qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de soldats étrangers, ensuite des forces de l'ordre, qui vont être temporairement utilisé pour la sécurité pendant les Jeux. Mais ça a pour effet que, et ça le président Macron en a parlé récemment, il est possible que tout simplement le programme même de la cérémonie d'ouverture soit changé. Parce qu'il y a vraiment, vraiment de grosses inquiétudes. Je vous ai dit comme ça avec en blaguant là, mais bon, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, un certain Vladimir P. Puisque certains des athlètes russes ont été interdits de participer aux Jeux Olympiques, que lui voudrait participer à la fête, mais à sa façon. Donc, on voyait une petite surprise. Mais là, pour une fête qui est censée représenter l'unité du monde, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui a lieu que 4 fois. Tous les 4 ans. Lorsque j'ai... On a travaillé sur le podcast, justement sur les Jeux Olympiques avec EcoProd, on a fait des recherches. Et ce qu'on a appris, c'est que, entre différents groupes cités dans l'Antiquité, ou je ne sais plus comment on appelait cette période-là, en Grèce, Ils avaient souvent des combats entre groupes, entre régions, entre, vous savez, entre certains rois, certains princes, mais lorsqu'il s'agissait des jeux, il y avait ce qu'on appelle la trêve olympique. Donc, s'il faut s'inquiéter pour la sécurité des athlètes à quelques mois des Jeux Olympiques, là, c'est vraiment, vraiment inquiétant, quoi. Toujours dit que la fièvre est là, les athlètes sentent que ça va venir. Les installations sont presque toutes prêtes. Récemment, il y avait eu l'inauguration d'un des bassins là pour les compétitions de natation. Mais ça reste que ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur, notamment pour les inquiétudes concernant la sécurité. Maintenant, on espère évidemment que tout va bien se passer. Là, ce que je peux vous dire, c'est que il y a de plus en plus de détails qui sont en train de sortir concernant les activités. Je vais le faire en détail. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura probablement pas d'émission la semaine prochaine, mais je vais aller un peu plus en détail concernant certaines compétitions et là où elles auront lieu en fonction de certains sites. Déjà, je note que à Lille, il y aura les compétitions de basket, également pour les phases préliminaires, ainsi que les compétitions de handball. En Outre-mer, donc à Tahiti, ce sera les compétitions de surf, comme je vous l'avais dit. À Lyon et à Saint-Étienne, ainsi que Nice et Marseille, Bordeaux est également inclus, ainsi que Nantes, il y aura des compétitions de football. Vous savez, c'est un sport aussi, bon, disons le soccer, c'est un sport qui intéresse beaucoup, disons les Jeux Olympiques, notamment avec les équipes nationales. Et ils auraient espéré que Mbappé soit présent à cette occasion-là. Et puis, il y aura les compétitions de tir qui auront lieu à Châteauroux. Maintenant, pourquoi le choix de Châteauroux? Je l'ignore totalement. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus en détail. Et comme je vous l'ai dit là, depuis plusieurs semaines, Ecopron, on essaye de monter des podcasts sur les Jeux Olympiques. S'il y a des personnes qui sont intéressées, vous allez sur la page d'Ecopron, vous envoyez un email et on vous associera à ce projet-là. Donc, c'était ça pour la page de compte à rebours sur les Jeux Olympiques. Et on est vraiment, vraiment content que cela ait lieu plus de 100 ans, pas plus de 100 ans, mais oui, 100 ans après les derniers Jeux qui avaient lieu à Paris en 1924. Si moi j'ai l'occasion d'y aller, je serai tellement content. Mais en tout cas, on travaille là-dessus. On va, sans transition, parler des playoffs dans la Ligue nationale de hockey. Puisque ça a lieu, là, ça a commencé depuis la semaine dernière. Pour l'instant, au moment où cette émission est enregistrée, qu'est-ce qu'on a? On a, je regarde tout le plateau, là. Ok, ouais. Donc, on a, dans la confrontation entre les Panthers et le Lightning, pour l'instant, les Panthers mènent 3 victoires à 0 après 2 victoires à domicile. Il mène maintenant 3-0 face au Lightning. C'est vraiment inquiétant pour le Lightning, là. 3-0. Très peu d'équipes dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey ont réussi à rattraper ce retard-là. Surtout que c'est une défaite 5 buts à 3 à domicile pour leur match d'ouverture à Tampa. C'est bon, Lightning, il va falloir sans doute passer une page. Après avoir joué 3 fois les finales de la Coupe Stanley entre 2021 et 2023. Et clairement, là, ils sont en train de prendre. Non, 2020 et 2023, c'est ce que je voulais dire. Ouais, clairement, ça commence à devenir compliqué pour eux. Non, 2020, 2022, c'est ce que je voulais dire. 2020, 2021, 2022. 2023, c'était Colorado. Pardon, les Golden Knights qui avaient été champions. Ok, dans la confrontation entre Hurricanes de la Caroline et Islanders, là ça devient compliqué aussi pour les Islanders du coach québécois Patrick Roy. 3-0 pour l'instant après une défaite à domicile pour leur match d'ouverture des playoffs. À domicile, là c'est vraiment chaud pour eux aussi. Et bon, il y aura peut-être l'occasion de se rattraper pour le match 4, mais ça sent pas bon du tout pour eux. Dans la confrontation entre Los Angeles et les Oilers s'étaient bien imposés au premier match 7 à 4. Ensuite, au deuxième, ils ont perdu 5 à 4. Là, c'est 1-1 pour l'instant. Entre le Golden Knights de Las Vegas et Dallas, les Stars, c'est 2 à 0. Et les Golden Knights, bon, pour ceux qui suivent le hockey de près, clairement, ils manipulent les règles là. Puisque, par exemple, l'un des meilleurs joueurs des Golden Knights, il s'appelle Mark Stone, qui n'avait pas joué de toute la saison, mais comme par hasard, pour les playoffs, ben, il s'est retrouvé tout à fait en forme là. Ah, j'aime pas cette manipulation ce qu'on appelle le plafond salarial là. Et c'est vraiment pas bon pour Dallas parce que ils avaient commencé les playoffs chez eux et là ils ont perdu déjà les deux premiers matchs. Je pense pas qu'ils s'en sortiront. Autre confrontation, c'est les Rangers contre les Capitals. Pour l'instant, les Rangers ont gagné tous leurs deux matchs à domicile. Donc, les Capitals, il va falloir faire quelque chose. Là, surtout qu'Ovechkin n'a pu scorer qu'un but depuis le début des playoffs. Entre Vancouver, les Canucks et les Predators, pour l'instant, c'est 1-1. Vancouver avait gagné le premier match et les Predators avaient gagné le deuxième. Et là, maintenant, ils vont jouer à Nashville. Et dans la série entre Winnipeg, les Jets et Avalanche, 1-1. Les Jets s'étaient imposés au premier match. Ensuite, Colorado avait gagné le deuxième. Ben voilà quoi, il va falloir que Winnipeg essaye d'arracher un match là-bas. Dans la confrontation qui nous intéresse vraiment, nous, ici à Toronto, c'est les Maple Leafs face aux Bruins. Et là, beaucoup de choses à dire. Match 1. Les Maple Leafs avaient été écrasés, dominés. C'était quasiment un match homme contre des enfants, quoi. 5 buts à 1, avec 5 buts des. Je pense que c'était 4 buts d'abord des Bruins, comme ça. Et les Maple Leafs avaient réduit le score, et ensuite c'est un cinquième but. Dans le deuxième match, les Leafs avaient réussi à arracher une victoire 3 buts à 2 sur le terrain des Bruins, c'était très très bien. Mais dans le troisième match, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Victoire des Bruins 4 buts à 2. Mais au-delà de la défaite, c'est l'attitude affichée par les Leafs qui est inquiétante. J'ai une chronique qui sera sans doute postée durant soit lundi, soit en tout cas au plus tard lundi, elle sera postée, où je fais le portrait du défenseur québécois des Leafs, Simon Benoit. Simon Benoit est vraiment différent. Différent de tout le reste de l'équipe. Physiquement, il est plus grand que les autres. Dans sa mentalité, il est plus orienté vers le résultat. Dans sa façon de jouer, probablement moins de talent que les autres, mais dans son rôle très efficace. Mais les Leafs, ils ne vivent que par l'attaque et ils vont périr que par l'attaque. Le problème, et je le dis souvent dans cette règle du sport, et ça vaut pour quasiment tous les sports, pour gagner des matchs, il faut savoir attaquer. Mais pour gagner des titres, il faut savoir défendre. Et ça, les Leafs l'ont prouvé. Année après année, ils ne savent pas le faire. Lorsqu'il s'agit des playoffs, ils disparaissent. Des grands joueurs comme Mitch Marner, c'est comme il joue, il a peur. Mais t'as peur de quoi, mon gars? Tu gagnes presque 11 millions par saison. T'as à peine la vingtaine, milieu vingtaine. T'as tout ce qu'il faut dans la vie. T'as peur de quoi? Tu joues contre des hommes contre toi. T'as peur de quoi? Austin Matthews, 6 pieds 3, presque 200 livres. Plus costaud que tout le monde. T'as peur de quoi? Oui, il a mis un but pour faire gagner le match 2, mais à part ça. Je l'ai dit dans l'émission de la semaine dernière, lorsque j'ai fait le bilan de fin de saison régulière des Leafs, les 4 derniers matchs, c'était étrange, c'était étrange. Ils cherchaient absolument à atteindre la barre symbolique des 70 buts au lieu de chercher à gagner le match. Et là, ça pourrait faire que l'équipe était absolument obnubilée à l'idée de l'aider à marquer son 70e but. Et au passage, ils prenaient minimum 4 à 5 buts par match. Ils étaient tellement obsédés par l'idée que Matthews score son 70e but qu'ils oubliaient de défendre. Et là, face aux Bruins, ça se voit. Ils sont démasqués. Et en face, les Bruins, ce n'est pas une équipe extrêmement talentueuse, mais non. Je ne suis pas un expert en hockey, mais je suis ce sport-là depuis plus d'une dizaine d'années. Je couvre les Maple Leafs depuis longtemps. Ils ne font rien d'exceptionnel, les Bruins. Ils ont juste beaucoup d'intelligence, beaucoup de malice et assez et beaucoup d'efficacité dans leur jeu. Chaque fois qu'ils prennent un but, tout de suite, ils essayent de riposter. Ça, c'est, on le dit en anglais, mindset. C'est le mental. On ne laisse pas tomber, on ne se met pas à genoux. On lâche pas, on lâche pas. Et ça manque vraiment. Ça manque vraiment au Toronto Maple Leaf. J'ai du mal à comprendre que ce soit acceptable pour eux de se mettre à genoux comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Comment un groupe aussi talentueux, ça fait 8 ans d'affilée qu'ils sont en playoff. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous allez vous faire éliminer encore comme ça? Regardez la passion des supporters. Et d'ailleurs, Joe Bowen, comment on appelle? On dit play-by-play announcer. Celui qui décrit les matchs, commentateur officiel des matchs des Leafs, le dit. Il marque un but, tu vois des gens qui se prennent des selfies, qui enregistrent ça sur leur téléphone, mais crier, gueuler pour que l'équipe joue mieux. J'ai appris que le prix des places pour les Maple Leafs, c'est en moyenne entre 500 et 1000 dollars par place. 500 à 1000 dollars par place. En ces temps difficiles, les gens payent plusieurs centaines de dollars pour aller voir l'équipe pour des prestations minables comme ça. J'ai une stat qui est sortie. Sur leurs 5 derniers matchs à domicile, en playoff, ils les ont tous perdus. Ça, ce n'est pas une question de talent. Non, c'est une question de mental, de fierté, d'amour de soi, de se montrer en tant qu'homme, tout simplement. C'est inacceptable, inacceptable qu'une équipe aussi talentueuse ne puisse pas produire sur la glace. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, il y a des problèmes, il y a des blessures. Apparemment, Nylander, l'un des joueurs les plus talentueux, a des problèmes de migraine. Mais mon garçon, problème de migraine, tu es payé 11 millions. Écoute, si je suis payé 11 millions, je te jure là, s'il faut aller travailler à genoux, je vais aller travailler à genoux. Si je suis payé 11 millions, s'il faut aller travailler à genoux, chaque matin, je vais aller travailler à genoux, je te jure. Ok, il a sans doute des problèmes de santé, ce n'est pas bien, c'est délicat de parler des problèmes de santé d'une autre personne. On ne sait pas les détails et tout ça, les tenants et les aboutissants. Toronto mérite mieux. Toronto mérite mieux. Toronto, c'est la Mecque du hockey. C'est des gens qui se saignent pour payer ces billets-là. Si samedi, les Leafs perdent face aux Bruins, ils sont quasiment garantis d'être éliminés parce que ce sera 3-1, il n'y aura rien d'autre à faire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Toronto Maple Leafs? Jusqu'à quand? Quand vont-ils donner une fierté à leurs fans? C'est une équipe de talent. C'est une équipe où il y a un énorme potentiel. Une équipe où la première ligne d'attaque, Austin Matthews, plus de 100 points. William Nylander, 98 points. John Tavares, presque 70 points. Mitch Marner, plus de 80 points. Donc, il y a un énorme potentiel. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le coach, Sheldon Keefe, à la fin du match, il fait l'analyse. J'étais vraiment surpris. Même si c'est preuve de sportivité et d'intelligence, mais il était en train de faire les louanges d'un joueur adverse qui s'appelle Brad Marchand. Brad Marchand, vous savez qui c'est? C'est un joueur, il est bon, mais il n'est pas extraordinaire. Mais tout ce qu'il y a de caractéristique de son jeu, c'est le vice. Il fait tout pour faire tomber les adversaires. Il fait tout pour rentrer dans leur tête. Il fait tout pour les distraire. Et en même temps, quand ils sont distraits et qu'ils perdent leur concentration, ils marquent. Il n'y a aucun joueur comme ça chez les Leafs. Celui qui devrait avoir ce rôle-là, c'est Max Domi. Mais il n'a pas ce talent-là. Et Brad Marchand, c'est un ancien champion. Mais enfin, les Leafs. Enfin, les Leafs, faites quelque chose. Gagnez le match 4. C'est pas possible de faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas tomber comme ça. Et si vous tombez, tombez les armes à la main. Ce n'est pas acceptable. En tout cas, j'espère. J'espère pour les Maple Leafs, pour leurs fans, qui vont redonner de la fierté à leurs fans. On va conclure. Il n'y aura pas de transition là. On va directement parler. Et pour parler du hockey aussi, pour finir, un hommage à Bob Cole, ancien commentateur de ce qu'on appelait la soirée du hockey sur CBC. On appelait ça Hockey Night in Canada, qui est décédé à l'âge de 90 ans. Bon, moi, je n'ai pas connu là, évidemment. Mais j'ai entendu dire que c'est un très grand commentateur, que pendant plus de 50 ans, c'est quelqu'un qui a bercé les gens avec ses belles analyses de hockey. Bon, paix à son âme, quoi. On va aller sans transition. Je rappelle que vous êtes sur Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. On va parler directement comme ça de la NBA pour conclure cette émission de Cédric du Sport. Donnez déjà le tableau des playoffs jusque-là, puisqu'on est au premier tour. Pour l'instant, OKC mène 2-0 face à Nouvelle-Orléans. C'est égalité entre Los Angeles, les Clippers et Dallas. Première victoire des Clippers à domicile, ensuite défaite au deuxième match. Minnesota en train de dominer Phoenix. Deux victoires, bon voilà quoi, avec un festival du jeune Anthony Edwards. Les Denver Nuggets jouent contre les Lakers et au moment où cette émission est enregistrée, c'est quelques heures après le match 3, et là Denver mène 3-0. Ce qui a fait vraiment la différence, à mon avis, dans cette série-là, c'est le match 2, où les Lakers menaient de 20 points durant le troisième quart-temps. Ensuite, ils ont perdu. Mais c'est. Et là, au match 3, également la même chose. Ils étaient menés de plus de 10 points et ils ont gagné le match 3. Et c'est. Écoutez. Ceux qui me connaissent, ceux et celles qui me connaissent, savent que je n'ai jamais été un grand fan de LeBron James. Mais si vraiment Denver Nuggets les élimine encore par un balayage de 4 victoires à 0, LeBron n'a qu'à prendre sa retraite. C'est juste, il faut arrêter la blague là. Oh, je suis le GOAT, je suis ceci, je suis cela. Arrête, 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 arrête. Tu n'es pas le GOAT, tu ne seras jamais, tu ne l'as jamais été. Tu ne peux pas prendre un sweep deux fois de suite en moins d'un an par la même équipe. Et à la maison. Non. Non. À un moment donné, comme on dit dans le sud de la France, tu les prends, tu les poses sur la table, tu montres que tu es un homme. C'est pas possible. C'est vrai que c'est un sport collectif. Il peut pas gagner tout seul. Mais c'est pas possible. Le match 2. Ceux qui ont suivi comment on appelle? Les extraits du match. 13 secondes. Le score égalité 99 à 99. LeBron a le ballon. Il pousse un joueur adverse. D'ailleurs, ça aurait dû être sifflé. Il se retrouve à la ligne à 3 points. Ouvert, personne n'est près de lui pour défendre, il rate. Il a raison de prendre le tir, ok? Mais il n'a pas eu raison de prendre ce tir-là. Parce qu'il restait 13 secondes, qu'il était sur la ligne des 3 points, qu'il aurait plutôt fallu essayer d'aller assurer avec un layup, c'est-à-dire quelqu'un qui est un bon finisseur au panier. C'est ce qu'il sait faire. Il l'a pas fait. Il a pris un bon vieux tir à 3 points pourri qui rebondit sur le cerceau. Résultat, rebond des Nuggets qui donne le ballon au meneur canadien Jamal Murray qui vient derrière de Kitchener. Il ramène le ballon, ligne de fond, dribble à gauche, dribble à droite. Il va vers la ligne de fond, il se retrouve face à Anthony Davis qui avait 5 fautes, donc qui hésitait à faire faute. Boum! Panier au buzzer. Fin du match. Très mauvaise gestion du temps par LeBron James. Très mauvaise gestion des temps morts par le coach Darvin Ham. Très mauvais positionnement d'Anthony Davis, qui n'aurait pas dû être là, puisqu'il avait peur de faire faute, parce que s'il faisait faute, c'était sa sixième, il était sorti du match, au cas où il y aurait prolongation. Les Lakers, pour moi, en tout cas, on verra ce qui va se passer. J'aurais pas voulu qu'ils soient éliminés, mais si ça se fait, ben c'est qu'ils l'auront mérité, quoi. Tout simplement. Il n'y a pas autre chose à dire. Ok. On va finir sur ça. Maintenant, là, je parlais de la conférence Ouest. Dans la conférence Est, pour l'instant, c'est Boston qui avait gagné le match 1 et ensuite, ils ont perdu le match 2. Donc, c'est 1-1 face à Miami Heat, malgré l'absence de Jimmy Butler. Dans le match entre la série entre Cleveland et Orlando, Cleveland avait gagné les deux premiers matchs à domicile. Ensuite, Orlando les a explosés à domicile à près de 40 points d'écart pour le match 3. Dans la série entre Milwaukee et Indiana, c'est Milwaukee avait gagné le premier match, Indiana a gagné le deuxième avec deux énormes performances de Siakam, Pascal Siakam, 36 et 37 points. Performance historique là, je pense dans l'histoire de la NBA, il n'y a aucun joueur qui avait réussi à faire plus de 30 points, plus de 10 rebonds en deux matchs consécutifs. Et enfin, dans la série entre New York les Knicks et Philadelphia, c'est deux buts, pardon, deux buts, qu'est-ce que je raconte? C'est deux victoires à une pour Philadelphia. Les Knicks avaient gagné les deux premiers matchs à New York, et puis là, Philadelphia s'est imposé au match 3 avec une énorme performance, entre autres, du pivot franco-américain-canadien Joel Embiid. Dans ce match-là, d'ailleurs, Embiid a commis des fautes un peu bizarres, là. Je suis vraiment surpris qu'il n'ait pas été expulsé du match. Entre autres, il avait fait une faute dans laquelle il était au sol. Et là, essayer de retenir les chevilles d'un adversaire, ça, c'est vraiment pas. C'est un vrai problème, là. Et on ne peut pas se comporter comme ça. C'est très dangereux de faire ça. D'autant que cet adversaire-là, qui s'appelle Mitch Robinson, revenait de blessure. Comme ça, l'exposer, c'est vraiment pas bien de la part d'Embiid. D'autant que Embiid y est connu pour sa fragilité. Il a tout le temps des problèmes au genou. Et là, on a appris, et tant mieux pour lui, là, il avait réussi une grosse performance le jeudi soir avec 50 points, mais on a appris aussi qu'il souffre depuis plusieurs mois d'une paralysie partielle du visage, donc le côté gauche de son visage qui ne peut pas, il peut pas cligner des yeux. J'avais déjà entendu parler de ça, mais chez un athlète, bon, c'est un peu particulier. Toujours est-il qu'on va continuer à suivre les séries, comme ça, dans les playoffs en NBA, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Comme je vous l'ai dit, probablement pas d'émission la semaine prochaine, mais probablement la semaine d'après. Et ça va coïncider avec le retour de la Champions League. Toujours est-il que ça a été un plaisir d'être avec vous dans Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. C'est Cédric Ngon pour vous servir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur les ondes du Choc FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone. On se retrouve début mai pour une prochaine émission de Cédric du Sport. Profitez bien de la fin de semaine et bonne chance aux Toronto Maple Leafs pour le reste des playoffs.